Chers amis, nous vous saluons chaleureusement pour cette cinquième partie de notre série qui porte le titre « Les grands enseignements cosmiques de Jésus de Nazareth à ses apôtres et disciples qui pouvaient les comprendre ». Il y a 2000 ans, Jésus le Christ apporta son message de joie à l'humanité. Il ne fonda aucune institution ni religion extérieure, mais dit aux hommes, « Le royaume de Dieu est en vous ». À cette époque déjà, Jésus de Nazareth enseigna en détail à ceux qui le suivaient ce que signifie le royaume de Dieu et comment chacun peut se rapprocher de ce royaume intérieur. La liberté et l'indépendance sont des aspects essentiels de son enseignement, un enseignement qui ne mène vers aucune confession ni religion et ne lie personne. Dans ses grands enseignements cosmiques, révélés à l'humanité au début des années 1990 à travers Gabriel, la grande prophétesse instructrice de Dieu, le Christ enseigne à nouveau le chemin qui conduit au royaume de Dieu. Ce chemin conduit l'homme vers l'intérieur de lui-même, ce qui ne veut pas dire dans l'isolement ou la solitude. Les grands enseignements cosmiques sont des aides pratiques permettant un apprentissage de la vie véritable dans le cadre familial, professionnel, tout comme à l'école ou entre amis. Ils sont destinés à être mis en pratique et, quel que soit notre âge, ils sont un véritable enrichissement pour notre vie. En tant que prophétesse de Dieu, Gabrielle traduit le langage céleste du Christ de Dieu dans notre langage humain et permet ainsi aux hommes de l'époque actuelle de prendre connaissance des grands enseignements cosmiques de Jésus de Nazareth. De plus, en tant que messagère de Dieu à notre époque, Gabrielle expose et explique ses grands enseignements à partir de sa conscience totalement développée. Au cours de cette série d'émissions, nous vous proposons de suivre la lecture de ses enseignements et des explications de Gabrielle, qui est présente avec nous dans ce studio. Nous poursuivons donc la lecture.
Dans ses grands enseignements cosmiques, le Christ dit « Vous, les hommes de cette époque, comprenez ceci. Dès que l'homme rebrousse chemin et renonce au matérialisme, il progresse vers son intérieur, vers le royaume du silence. » Pour nous aider à mieux comprendre cela, Gabriel donne les explications suivantes. Lorsque nous lisons et renonce au matérialisme, nous vient l'image de ce monde bruyant et fébrile, de la vie agitée, tournée vers le monde, qui ne connaît et ne reconnaît que les valeurs matérielles. Mais demandons-nous qui nourrit et donne tant d'importance à la pensée matérialiste. L'homme lui-même est la cause de cette fébrilité, de cette agitation, de ce chaos. Nos pensées humaines nous pourchassent et ce sont elles qui nous poussent à stresser à notre tour les autres. De ce fait, nous sommes nous-mêmes stressés comme traqués. Si nous nous laissons traquer de la sorte, nous sommes pilotés. Plus nous nous laissons traquer par nos propres pensées et désirs, moins nous nous connaissons nous-mêmes, parce que celui qui est ainsi piloté, traqué, est fébrile. Les pensées fusent à travers notre cerveau sans que nous parvenions à les saisir. De ce fait, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous, les êtres humains, nous faisons nous-mêmes tourner le monde matérialiste parce que nous sommes matérialistes, constamment en recherche d'avantages pour nous-mêmes. Nous misons sur la volonté d'avoir, de posséder, ce qui nous oriente de plus en plus vers l'extérieur au lieu de nous orienter vers l'intérieur et de nous rapprocher du royaume du silence.
Gabriel poursuit ses explications. Dans le royaume du silence règne le calme. Nos pensées s'harmonisent. Nous devenons paisibles et nous réalisons nos petits ou plus grands souhaits dans la conscience que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Autrement dit, il ne s'agit pas de nous interdire la réalisation de tous nos souhaits, mais de nous libérer des désirs qui nous harcèlent sans cesse, qui troublent et paralysent notre conscient. Nous le faisons en observant de plus près leur contenu et en le mettant en ordre avec le Christ. Car Dieu, notre Père, souhaite que tous ses enfants aillent bien. Bâtissons sur le Christ en accomplissant de plus en plus les lois de Dieu et en aspirant à redevenir divin. Et nous posséderons tout ce dont nous avons besoin, car Dieu sait ce qui est bon pour nous. Si nous pensons et vivons dans cette conscience, si nous faisons confiance à Dieu en toutes choses, alors se réalise ce qui revient à un enfant de Dieu. Ainsi, nous ennoblissons également notre âme. Un comportement fébrile, stressé, n'est pas digne de ce qui est noble et fin dans l'homme et le rend de plus en plus grossier, de plus en plus trivial. L'avidité s'empare de lui et il ne cherche plus qu'à posséder tout ce qu'il peut.
Poursuivons notre lecture des explications de Gabriel. Le royaume de Dieu en nous, c'est la richesse intérieure. Celui qui, véritablement, est l'enfant du silence intérieur, reçoit ce dont il a besoin, et plus encore. L'enfant du silence intérieur ne manque de rien. Il ne souffre ni de la faim ni de la soif, et ne vit pas dans le marasme. Sauf si nos pensées sont elles-mêmes un véritable marasme, et si nous sommes traqués par le vouloir être, le vouloir posséder, l'aspiration au pouvoir ou autre pensée similaire. Celui qui parvient au silence en lui-même reçoit. Celui qui vit orienté vers l'extérieur prend. Dans prendre, il y a toujours la notion d'avidité, tout pour moi. Plus l'homme prend, plus il s'appauvrit. Cela se concrétise au plus tard lorsque son âme, lors d'une incarnation ultérieure, retrouve les lieux où l'homme, dans une incarnation passée, a laissé derrière lui les traces de son insensibilité et de sa dureté de cœur. Cela ne veut pas dire que nous devrions planer sur un nuage et passer la journée assis en méditation. L'homme spirituel est actif et dynamique. Il agit à partir de l'intérieur. Il planifie, dépose son plan dans la volonté de Dieu et, à travers son plan, se laisse guider par Dieu chaque jour. Alors, il ne prend pas, il reçoit et peut donner à son tour. Il n'est pas harcelé, poussé, mais dynamique.
Dans son enseignement, le Christ de Dieu dit « Dès que l'homme rebrousse chemin et renonce au matérialisme, il progresse vers son intérieur, vers le royaume du silence. » Gabriel nous amène à regarder plus en profondeur le contenu de ces paroles. Lisons les explications qu'elle donne à ce sujet. Nous allons donc dans notre intérieur. Qu'est-ce que notre intérieur? Il s'agit de notre patrie intérieure, le seul lieu dans lequel nous sommes vraiment protégés et en sûreté. Notre intérieur, c'est Dieu, la loi de l'amour. Nous pouvons nous représenter la loi de l'amour comme une puissante flamme blanche qui brille en nous. C'est la flamme de l'amour impersonnel qui donne, de manière désintéressée, la flamme de la justice. C'est la flamme des sept forces fondamentales. C'est la loi, Dieu. Dieu, notre Père, dans le Christ, notre Rédempteur, est la seule sécurité. Lui qui habite au plus profond de nous, nous invite à venir là où nous sommes en sécurité. La lumière intérieure dans laquelle nous nous immergeons nous offre le soutien, la protection, la paix, l'harmonie et le silence. L'intérieur dans lequel nous cherchons donc à nous rendre ou que nous atteignons est-elle une forteresse dans laquelle nous sommes en sûreté, dans laquelle nous sommes protégés? Interrogeons-nous et regardons de plus près de quoi nous parlons lorsque nous disons que nous allons dans notre intérieur. Sommes-nous vraiment dans notre intérieur? Ou bien sommes-nous dans nos pensées et nos sensations humaines? Nous sentons-nous en sûreté? Nous sentons-nous comme dans une forteresse, protégée par le grand Un universel, qui est notre vie, qui est l'amour, qui est notre Père? Ou bien sommes-nous encore hors de cette forteresse?
Chers amis, si nous affinons progressivement nos sensations, nos pensées, nos paroles, nos actes et nos sens, en d'autres mots, si nous les rendons divins, nos sens s'orientent vers l'intérieur et nous demeurons dans la lumière intérieure. La lumière intérieure nous entoure, nous enveloppe et nous renforce. Chaque pensée émise dans la lumière intérieure, c'est-à-dire au plus profond de nous, est divine, empreinte de paix et d'harmonie. Chaque sensation et chaque sentiment qui repose dans l'océan qu'est Dieu fait ressentir à l'homme, l'enveloppe extérieure, qu'il est un être en Dieu. Celui qui vit dans cette conscience, c'est-à-dire dans la conscience que l'être qui est au plus profond de lui vit dans la lumière, au cœur de l'amour, ne peut faire autrement que de dire oui à celui qui est ce qu'il y a de plus beau, de plus saint, oui, l'absolu. Ce qu'il y a de plus beau, de plus saint, l'absolu, est notre héritage divin. C'est ce que nous sommes dans la vie spirituelle pure. Un être pur se tient constamment dans la lumière de Dieu. La lumière de Dieu qui s'écoule et rayonne à travers tous les règnes purs est symphonie, est l'océan dans lequel évoluent tous les êtres purs et toutes les formes pures.
Alle reinen Wesen und reinen Formen bewegen.
Chers amis, ces paroles de Gabriel nous transmettent l'image de ce qu'est notre véritable origine, notre origine spirituelle, celle dont nous sommes tous issus. Mais poursuivons la lecture. Nombreux sont ceux qui se demandent à quoi ressemble cette patrie où demeurent les êtres spirituels, la patrie de l'être pur qui est en nous. Dieu, notre Père, nous a offert la planète Terre. La terre, telle que notre Père nous l'a donnée, est dans toute sa beauté le reflet des cieux. Sur la terre aussi, il y a des jardins magnifiques et luxuriants. Pensons par exemple au vaste parc parsemé d'arbres majestueux, de buissons variés et où fleurissent les roses. Le soleil rayonne sur les jardins et nos yeux perçoivent lumière et ombre. Dans la patrie éternelle, chaque forme de vie brille d'elle-même à partir du noyau central qui rayonne et qui bat en elle, qui est tout en tout. Chaque rose, chaque feuille brille d'elle-même. Dans les beaux grands parcs de cette terre, particulièrement dans les jardins de style italien, des petits ponts délicats enjambent de joyeux ruisseaux. Ils sont à l'image de la patrie éternelle. Les grands parcs et jardins de cette terre sont le reflet des jardins de notre patrie céleste, dont ils nous transmettent une première image. Dans l'existence éternelle, rien n'est séparé par des haies ou des clôtures. Tout l'infini de l'existence pure est le jardin de Dieu qui abrite les édifices dans lesquels vivent les êtres spirituels. Ces édifices sont composés des minéraux de la substance la plus éthérée, la plus fine et la plus pure qui soit. Ils rayonnent de l'intérieur. Les êtres spirituels sont un avec tout ce qui s'écoule et a pris forme.
Gabriel poursuit ses explications. Ces quelques mots aimeraient nous transmettre une petite idée de ce qui nous attend dans la patrie éternelle. Bien qu'elle soit énergie dégradée dans la matière, c'est-à-dire perceptible par nos sens, les formes de la nature sur la terre sont un peu comme une esquisse de ce qui existe aussi dans les mondes célestes purs. Apprenons à ressentir ce qui est dans ce que nous voyons. Autrement dit, apprenons à regarder en profondeur et nous percevrons bien plus que ce que nous montre l'enveloppe extérieure. Regardons en profondeur au lieu de seulement voir et nous percevrons ne serait-ce qu'un soupçon de ce qui vit dans les formes matérielles, c'est-à-dire le divin. Nombreux sont ceux qui pensent que dans les mondes célestes, tout est vide, inhabité. Bien au contraire, la vie bat son plein. Une vie dans la loi de Dieu et avec la loi de Dieu, une vie divine qui crée et qui œuvre dans la grande loi cosmique et avec la grande loi cosmique. Car Dieu, le Créateur, inspire et expire. Il œuvre et crée inlassablement. Les êtres spirituels forment et agencent conformément à leur mentalité, c'est-à-dire qu'ils œuvrent en fonction de la force primordiale du plan céleste auquel ils appartiennent. Chaque être spirituel est loi éternelle comprimée. De ce fait, l'infini tout entier est en lui sous forme d'essence et de force. L'être spirituel n'a pas besoin de dire « ceci est à moi » car il est l'héritier de l'infini. Chaque être spirituel étant héritier de l'infini, il peut poser le pied partout, à tout moment. Il n'a pas besoin de se déplacer ici ou là pour rencontrer son prochain. En vertu du principe de la communication divine, tout peut se dérouler en lui-même. Ce qui exclut les notions de distance comme ici ou là-bas.
Nous sommes sur Terre pour devenir divin, pour retourner dans l'existence éternelle pure dont nous sommes originaires et que nous devons redévelopper. Le chemin nous paraît encore bien long si nous y mettons une notion d'espace, là-bas. Cependant, si nous prenons conscience que l'infini tout entier s'écoule à travers nous, sous forme de lumière et de force, que notre corps spirituel est l'existence pure comprimée, et que dans chaque cellule de notre corps vit la force universelle, Dieu, alors nous savons que Dieu est là. Dieu est tout proche de nous. En nous se trouve la loi éternelle, notre patrie éternelle, notre être véritable qui est divin. Où que nous allions, où que nous soyons, Dieu, l'éternel, est auprès de nous. Observons une forme extérieure. Qui rayonne vers nous? Dieu. Il rayonne dans notre intérieur. Si nous nous limitons à la perception de la forme extérieure, nous ne pouvons pas saisir Dieu. Tant que nous nous limitons à l'extérieur, nous sommes extériorisés et nous ne voyons que les formes extérieures. Dans ce cas, il nous est difficile de vivre dans la conscience que nous sommes des enfants de Dieu, des êtres purs, existence divine, vie divine. Beaucoup demandent, pouvons-nous redevenir divins sur terre en tant qu'êtres humains? La réponse est la suivante. C'est notre âme qui peut devenir divine. L'être humain a besoin des programmes qui lui permettent de vivre sur cette terre. Rappelons-nous tout ce que nous avons appris depuis l'enfance pour pouvoir vivre dans ce monde. Ce sont les programmes en question.
Pourtant, si nous laissons l'Esprit de Dieu rayonner à travers les programmes dont nous avons besoin pour vivre sur Terre, nous sommes guidés et nos sens et pensées, en majeure partie purifiés, nous permettent de voir plus en profondeur. Ainsi, nous percevons et saisissons dans sa profondeur ce que l'aspect extérieur ne laisse pas voir. Ne nous contentons pas de poser notre regard sur quelque chose, mais apprenons à accueillir et à laisser agir en nous ce que nous voyons. Alors, nous ressentons de plus en plus à quel point Dieu est proche de nous. Dieu nous aide, il nous donne de la force et nous guide également à travers les programmes nécessaires à la vie sur Terre, c'est-à-dire nos pensées, nos paroles et nos actes. Ne nous contentons pas de la perception extérieure des choses, de l'enveloppe matérielle, mais aspirons à ressentir en nous ce qui est dans la forme extérieure de la matière, la vie qui est dans toute forme extérieure. Ainsi, nous élargissons progressivement notre conscience spirituelle et sommes à même d'accueillir en nous la vie de la forme qui est devant nos yeux. Comment faire ? Nous regardons tout d'abord la forme de vie matérielle dans son ensemble. Nous affirmons la force de la vie divine qui se trouve en elle. En agissant ainsi, nous commençons à émettre. Nous émettons et en même temps nous recevons. Car lorsque l'homme émet vers un objet ou une forme de vie de la nature, ceci rayonne immédiatement en retour et nous recevons. Grâce à l'accomplissement des lois éternelles et à cet exercice, nous élargissons progressivement notre conscience divine à partir de laquelle nous percevons ce que nous communiquent les objets ou les formes de vie de la nature en vertu du principe émettre et recevoir.
Liebe Mitmenschen, in ihren Erläuterungen.
Chers amis, dans ses explications, Gabriel nous encourage en nous disant ceci. Efforçons-nous d'avancer consciemment, même à tout petit pas. Au cours de la journée, rappelons-nous un soutien de conscience, une phrase, une tâche ou un exercice, et mettons-le en pratique. Nous verrons que même un petit pas est récompensé. Nous le ressentons en nous, dans notre intérieur. Même si quelques aspects humains s'y glissent encore, le seul fait de faire un effort est récompensé par la force divine. La réponse est un sentiment de liberté, de légèreté et de joie. C'est là la réponse de Dieu. C'est la récompense que le Père donne à son enfant qui se rapproche toujours plus de lui. De la même manière, nous pouvons communiquer intérieurement avec les animaux. Exerçons-nous à communiquer avec ce qui est au plus profond de nos frères et sœurs les animaux, avec les forces de la création en eux. Ainsi, nous prenons toujours plus de recul par rapport au moi humain personnel, égocentrique, qui rend étroit, et pouvons observer les aspects de l'ego-man qui sont encore en nous. Cette possibilité de reconnaître nos aspects humains et de les mettre en ordre nous permet de progresser constamment vers notre intérieur, vers le royaume intérieur de Dieu, le silence en nous.
Le Christ dit: à peine l'homme a-t-il fait un pas dans cette direction, qu'il reconnaît que Dieu, l'Éternel, a préparé pour lui ce chemin depuis bien longtemps déjà. Gabriel explique à ce sujet. Cette phrase contient infiniment d'espoir. À peine l'homme a-t-il fait un pas dans cette direction qu'il reconnaît que Dieu, l'Éternel, a préparé pour lui ce chemin depuis bien longtemps déjà. À travers qui l'a-t-il préparé? À travers le Christ. Nous savons que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Par le sacrifice qu'il a fait sur le mont Golgotha, il nous a préparé le chemin. Le Christ a tracé ce chemin pour nous, pour chacun de nous. Nous suivrons ce chemin parce que nous portons en nous la rédemption. En raison de la loi du libre arbitre, chacun de nous décide librement de quand il suivra ce chemin. À peine a-t-il fait un pas, signifie que nous avons accompli un aspect de la loi divine. De ce fait, notre âme s'est éclaircie. La lumière de notre âme s'amplifie et rayonne à son tour, ce qui nous permet de voir le prochain pas à faire, et nous avons également la force de le faire. En effet, plus la lumière de la conscience s'intensifie dans notre âme, plus nous voyons loin et saisissons les choses en profondeur, et plus nous reconnaissons ce qui se passe en nous et, grâce à la mise en pratique des commandements de Dieu, ce qui se passe également dans notre prochain. C'est uniquement ainsi que nous pouvons lui apporter de l'aide. Repensons au Christ. Il nous a préparé le chemin à travers ce qu'il a vécu sur le mont Golgotha. Il suit ce chemin avec nous et nous conduit jusqu'au Père.
Avec le Christ et à travers lui, nous mûrissons dans la vie divine qui demeure au plus profond de notre âme et attend d'être à nouveau développée. C'est pourquoi nous sommes des pèlerins sur cette terre. Tant que nous ne reposons pas en Dieu, nous cheminons à la recherche de la satisfaction, du bonheur. Si un jour nous croyons l'avoir trouvé, le lendemain, il nous glisse entre les doigts. Le bonheur extérieur n'est pas durable. Inexorablement, il fait place à l'insatisfaction ou à l'affliction et au chagrin. Nous devons trouver le bonheur intérieur qui est la stabilité dans le Christ. Le bonheur intérieur est la sécurité et la protection dans le Christ. Tentons l'expérience avec lui. Il est présent. Il est en nous. Chaque jour nous montre comment nous pouvons nous rapprocher de lui. Comment? La journée nous le montre. Dans tout ce qui vient vers nous, au cours de la journée, y compris les difficultés, le Christ nous aide. Il est toujours à nos côtés.
Gabriel poursuit ses explications. Si nous vivons chaque jour dans la conscience qu'il est toujours auprès de nous, nous avons le courage, avec lui, de faire les pas pour nous libérer de notre moi humain. La réponse est le bonheur intérieur que nous ressentons et, dans le bonheur intérieur, la paix intérieure. De la paix intérieure grandit l'amour désintéressé, car nous ne nous arrêtons pas aux fautes de notre prochain. Nous voyons en lui les aspects positifs. Disons oui au Christ. Tentons l'expérience. Faisons le premier pas avec lui et nous recevons le courage de faire les pas suivants, ce qui nous permet de mûrir et de progresser vers la vie, notre vie véritable qui est divine.
Bienheureux celui qui comprend que le véritable soutien, le soutien éternellement durable, est si proche de nous. C'est le Christ dans notre âme. C'est le Christ dans chaque cellule de notre corps. C'est le Christ dans chacune de nos pensées. La solution positive dans chaque problème, dans chaque difficulté. Le Christ est l'Esprit omniprésent dans le Père et l'Esprit de Dieu est en nous. Nos jours changent si nous prenons plus souvent conscience de ce qui suit. Où que nous allions, le soutien, la sécurité est en nous. Quoi qu'il arrive, le soutien, la sécurité est en nous. Quoi que nous pensions, même si nous croyons ne pas être capables de résoudre tel ou tel problème, le soutien, la sécurité et l'aide sont en nous. Le Christ est toujours là, prêt à nous aider. Lorsque nous tombons, il nous relève, il nous remet sur pied et nous dit « Allez, viens, poursuis ton chemin. » Vers où ? Vers lui. Où est-il ? Ici ? Là-bas ? Non, il est en nous. Si nous prenons conscience de cela, une sécurité intérieure s'installe en nous. Nous nous sentons protégés dans cette sécurité intérieure. Et dans cette protection, l'amour grandit à son tour. L'amour de l'enfant pour son Père éternel, car le Christ et le Père sont un, un seul et même courant, un seul et même esprit qui traverse et emplit toutes choses.
Aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de lui. Le Christ ne s'éloigne pas de nous. Il ne nous abandonne pas. Il est là, même si nous l'avons rejeté pendant des années, voire des siècles, même si nous avons à peine pensé à lui, et même si nous l'avons renié et n'avons pas cru en lui. Une demande sincère de notre part, un petit pas désintéressé vers lui, c'est-à-dire vers l'intérieur de nous-mêmes, et lui, du plus profond de l'existence pure, fait plusieurs pas vers nous. Faisons ce pas, faisons-lui confiance, confions-lui notre vie, et nous ferons très rapidement l'expérience que le Christ est notre soutien, qu'il est le consolateur et le rédempteur. Il est le chemin qui est reconduit jusqu'au Père. Il est la vérité en nous. Le Christ est notre vie et nous sommes la vie en lui.
Le Christ enseigne encore ceci. L'homme qui aspire à être véridique ne dépasse pas son moi humain, ses penchants humains, uniquement pour lui-même, il le fait pour redevenir divin. Gabriel explique à ce propos que signifie pour nous cette phrase. Si nous nous défaisons des aspects du moi humain, de nos penchants humains, dans un but personnel, notre progression spirituelle est très limitée. Effectivement, nous déposons peut-être l'un ou l'autre de nos aspects humains, mais en nourrissons d'autres, car notre but n'est pas de redevenir divin, mais d'atteindre quelque chose pour nous-mêmes. Nous nous berçons d'illusions sur nous-mêmes. Dans ce cas, nous ne progressons pas vers le divin, mais au contraire, nous développerons de nouveaux aspects du moi humain. En effet, si nous ne faisons pas grandir dans notre conscience le but de devenir divin, de nouveaux penchants humains grandiront alors à partir des racines de nos aspects négatifs. Notre but, notre motivation intérieure est déterminante. Si notre but est de nous rapprocher du Christ, de la lumière intérieure, de la loi des cieux, nous nous ouvrirons intérieurement au Christ et développerons en nous la lumière intérieure, la loi des cieux.
Gabriel reprend les paroles du Christ, l'homme qui aspire à être véridique, pour poser la question suivante. Qu'est-ce que veut dire être véridique? Qu'est-ce que la véracité? La véracité, c'est le divin, ce qui est de nature divine. Véracité vient de vérité. La vérité est issue de la pureté et elle est absolue. La vérité est la profondeur de l'existence pure et elle est existence pure elle-même. La vérité est la source dont s'écoule la véracité, car celui qui est vrai est pur. Et celui qui est pur est véridique. Et celui qui est véridique vit dans la source de la vérité.
Lebt in der Quelle der Wahrheit. Wir können also
nous ne pouvons donc pas surmonter nos aspects par trop humains si nous ne nous surmontons pas nous-mêmes, si nous aspirons uniquement pour nous-mêmes à évoluer spirituellement. Car ces aspirations basses donne à nouveau naissance à ce qui est humain. Dans ce cas, nous continuons à nous enraciner dans la loi de cause à effet.
Pourtant, nous voulons devenir divins. C'est le but de toutes les âmes et le sens de notre vie sur Terre. C'est pourquoi nous devrions aspirer à être véridiques. Nous devenons véridiques en nous immergeant progressivement dans notre soi véritable. La question s'adresse à nous chaque jour. Qui suis-je dans mes paroles et dans mes actes? Suis-je authentique, véridique ou encore humain, c'est-à-dire pécheur? De quoi est fait le monde de mes sensations et de mes sentiments? Nos sensations et nos sentiments nous montrent plus clairement encore que nos pensées si nous sommes véridiques ou si nous nous contentons d'affirmer intellectuellement la vérité. Ce qui est dans notre tête est encore loin d'être dans notre cœur. Notre cerveau contient nos programmes humains, notre savoir et notre capacité à raisonner. Dans notre cœur, la conscience spirituelle, au plus profond de notre âme, habite le divin, le logos, l'intelligence divine, la vérité. Ainsi, l'intellect peut nous tromper, mais jamais l'intelligence divine qui est au plus profond de l'âme. Dans l'âme se trouve la vérité dont est issue la véracité. Tout le reste n'est qu'illusion, apparence.
La vérité est empreinte de simplicité, de calme et de discrétion. Elle est l'existence pure. Tout ce qui est véridique, divin, est l'existence pure. Seul le vouloir être, qui n'est pas l'existence pure, veut briller, se profiler, s'afficher, paraître. Celui qui mise sur le savoir et l'intellect brille et éblouit. Ce n'est pas cela la vie. Ce n'est pas cela être et ce n'est pas cela la vérité. C'est paraître et cela est vide et éphémère. Voici à ce propos une phrase donnée par la sagesse divine. Chacun de nous a fait de lui-même ce qu'il est aujourd'hui, et non ce qu'il paraît être. Demain, il sera à nouveau ce qu'il est aujourd'hui, mais il ne brillera plus.
La vérité, c'est-à-dire la sagesse, est inconditionnelle et incontestable. La sagesse n'a pas besoin de poser de questions. Elle saisit l'intérieur, le cœur de toute chose et de tout événement, et elle sait. Celui qui souhaite parvenir au plus profond de lui-même et laisser s'exprimer son cœur au lieu de l'intellect pourrait laisser agir en lui les paroles suivantes. Le savoir ne tient compte que de ce qui est extérieur. Celui qui se contente d'accumuler du savoir pose des questions parce qu'il n'a pas développé la sagesse. On pourrait résumer en disant: celui qui a du savoir pose des questions, celui qui a la sagesse sait. Seule la mise en pratique des connaissances spirituelles les transforme en sagesse, en vie intérieure, issue de Dieu et ancrée en Dieu. Lorsque les connaissances spirituelles et la sagesse forment une unité, l'homme qui les possède voit au fond des choses. Il sait toutes choses, car il est devenu sage.
Chers amis, ces paroles de Gabriel nous encouragent à faire nos propres expériences, c'est-à-dire à mettre en pratique dans notre vie les connaissances spirituelles qui nous ont été transmises au cours de cette émission. Je rappelle que vous pouvez retrouver les grands enseignements cosmiques de Jésus de Nazareth à ses apôtres et disciples qui pouvaient l'y comprendre dans l'édition complète du Chemin intérieur, Vivre dans l'Esprit de Dieu, un ouvrage que vous pouvez commander ou trouver en librairie. Nous nous réjouirons de vous retrouver pour la suite de cette série. Lors de notre prochaine émission, nous entendrons comment nous pouvons trouver Dieu et ce que signifie percevoir Dieu dans toutes les formes de vie. D'ici là, nous vous souhaitons de faire de bonnes expériences avec le soutien de conscience que nous avons reçu, où que nous allions, quoi qu'il arrive, le soutien, la sécurité est toujours en nous. C'est le Christ et il est toujours prêt à nous aider. Chers amis, au revoir et à bientôt.